Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, qui est professeure, comme vous le savez, à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Et bienvenue.
Merci.
Nous allons nous entretenir ce matin sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est le début de la Semaine Sainte en cette fin de semaine. Et ça, donc, on ne peut pas, on comprendra qu'on ne peut pas faire porter notre émission sur le long texte de la Passion. Nous allons nous concentrer sur le texte d'introduction de la célébration, portant donc sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Voilà.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce récit est présent dans les quatre évangiles, hein, ce qui n'arrive pas si souvent qu'on pense. Et il y a des différences intéressantes. Par exemple, dans la version de Matthieu aujourd'hui, on remarquera qu'il y a une citation du prophète Zacharie, dont les gens se souviennent, un roi humble monté sur un âne, ça fait image. Et il y a seulement Matthieu et Jean qui ont cette citation-là. Alors, on s'en servira pour réfléchir sur ce récit de Matthieu.
Alors, j'en fais lecture maintenant. C'est en Matthieu au chapitre 21. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-la moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour que soit accomplie la parole dite par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici que ton roi vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les étendaient sur la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Francine Robert, vous nous disiez au début que la particularité de Matthieu, c'est qu'une très grande utilisation de l'Ancien Testament.
Oui, et particulièrement une citation directe d'un passage du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et on voit que Matthieu la place très bien à un endroit qui lui donne beaucoup d'importance. Le récit commence avec la préparation, on pourrait dire... Les consignes que Jésus donne aux disciples. Et déjà dans les consignes, au tout début, il est question de l'ânesse et de l'ânon. Pourquoi? Et ceci est particulier à Matthieu. Mais parce que l'ânesse et l'ânon, c'est dans la citation de Zacharie. Et tout de suite après ces consignes que Jésus donne, au lieu d'annoncer que les disciples font ce que Jésus leur a dit, il entre là, la citation donc du prophète Zacharie. Alors, c'est pour bien indiquer à quel point cette citation-là est importante. C'est seulement ensuite qu'on nous décrit que les disciples font ce que Jésus leur a dit et comment les gens réagissent, l'enthousiasme d'une part et les questions des gens de la ville d'autre part.
Donc, il y a vraiment une référence là au prophète, oui. Prophète Zacharie.
Oui, et très bien introduite à la manière de Matthieu, ce qu'on appelle les citations d'accomplissement. Hein, ceci arriva pour que soit accomplie la parole de un tel. C'est ce genre de formule revient très souvent chez Matthieu. Juste rappeler que quand on parle de Jésus qui accomplit une parole prophétique, c'est toujours dans le sens où les premiers chrétiens ont relu les prophètes pour voir comment l'espérance qui s'exprimait dans les livres des prophètes et trouve sa réalisation en Jésus. Faut pas se faire l'idée pas d'une sorte d'agenda qui aurait été prévu par les prophètes et que Jésus n'aurait qu'à suivre.
Non, c'est vraiment... En fait, ces gens-là connaissaient bien leur Ancien Testament et ils font une relecture.
Oui. Pour faire les liens avec Jésus, il y a des milliers de phrases des prophètes qui sont jamais mises en rapport avec Jésus. On est allé chercher ce qui convient. Et même avec ça, même donc avec des phrases qui conviennent, on verra que Jésus ne réalise pas cette espérance-là toujours de la manière dont le prophète décrit la chose. C'est parfois assez différent et inattendu, la façon dont Jésus se présente finalement. Alors, ce texte de Zacharie, au chapitre 9, verset 9, la façon dont on le comprend habituellement, c'est qu'il annonce le roi Messie, hein, qui vient, « Réjouis-toi, fille de Sion, c'est Jérusalem, Sion. » Et donc, on annonce l'affirmation de foi chrétienne. Ici, on voit qu'on est dans un évangile qui est écrit par un chrétien pour des chrétiens, qui nous désigne Jésus comme le roi Messie annoncé et espéré. C'est l'entrée triomphale du Messie et de Jésus, vu comme Messie. C'est sûrement plus clair pour le point de vue chrétien que ça pouvait l'être pour les gens de l'époque là autour du Jésus historique comme tel. Et Matthieu, pour être sûr qu'on n'a pas de doute, là, ajoute une précision.
Il va puiser dans un psaume, là, hein,
oui, c'est ça? Oui, oui. Ça, les quatre vont puiser au psaume 118. Toute l'acclamation, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce que nous avons dans le Sanctus. Mm-hmm. Hein, ça vient du psaume 118. Et aussi bien Marc, Luc, Jean que Matthieu citent ce psaume. Mais ce que Matthieu ajoute, pour qu'on pense vraiment directement au Messie, c'est « Fils de David, Hosanna au Fils de David ».
OK, ça, c'est Matthieu qui l'ajoute,
oui,
ça.
Oui, mm-hmm. Pour vraiment faire le lien avec Zacharie et amener à comprendre qu'il s'agit bien, effectivement, du Messie, puisque le Fils de David, c'est un titre qui désignait le Messie, c'est-à-dire un roi de la lignée de David. Alors, c'est crié avec enthousiasme. Ça nous est raconté un peu comme si c'était une fête d'intronisation, hein, royale. On pourrait dire une sorte de triomphe d'un nouveau roi qui se promène dans les rues et qui reçoit les acclamations de son peuple.
C'est ça, hein, l'avènement d'un nouveau roi.
Oui, c'est ça.
Mais et ce nouveau roi est dans la lignée, donc...
De David. C'est ça. Et on s'aperçoit que aussi bien chez Marc et Luc que chez Matthieu, il y a d'autres traits du récit qui sont reliés à ce thème du roi. Et particulièrement de l'intronisation d'un roi. Entre autres, l'âne. Ça évoque le livre de la Genèse au chapitre 49, lorsque Jacob annonce un petit peu l'avenir de chacun de ses 12 fils, et lorsqu'il parle de Judas, qui est un de ses fils, et qui est l'ancêtre de David, parce que David est de la tribu de Judas. Et d'ailleurs, Judas est mentionné dans la généalogie de Jésus qui est donné par Matthieu. Donc, ce Judas, il est annoncé comme un lion avec des images de force, de victoire. On lui promet la royauté pour sa descendance. Et on dit textuellement, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Donc, vous voyez comment Zacharie, le prophète,
et Zacharie va reprendre ce passage de la Genèse,
finalement. Âne et ânesse, les deux images ensemble, Alors, oui, vous alliez dire, probablement, puisque Zacharie le reprend, que Matthieu le cite.
Ben voilà.
On a toute la famille. Donc, ça fait assez quand même étrange. Ça oblige Matthieu à être assez peu vraisemblable.
Parce que Jésus est monté sur deux bêtes.
Puis deux qui doivent pas être à la même hauteur, le petit est probablement moins haut que sa mère. Au fond, on voit bien que Matthieu ne cherche pas la vraisemblance, mais la signification qu'on tire de Zacharie. Alors que chez les autres, il y a un seul âne, ça va quand même mieux.
Il y a d'autres liens aussi avec les ânes par rapport à la royauté.
Oui, il y en a un autre. C'est quand David, au premier livre des rois, ordonne de faire monter Salomon sur sa propre monture à lui, sur sa mule, et invite les gens à crier « Vive le roi Salomon hein. ». Salomon, grimpé sur l'âne de David, c'est pour dire à tout le monde « Voici, c'est lui qui va me succéder comme roi ».
En somme, c'était la décapotable de l'époque.
Peut-être qu'au temps de Jésus, c'était moins... c'était probablement plus courant au temps de Jésus. Mais dans un contexte où on a aussi Hosanna, fils de David, où on a la citation « Voici ton roi qui vient à toi », l'âne est vraiment associé à l'image du roi.
C'est tout un montage visuel.
Oui.
Qui veut nous passer le message que Jésus est présenté comme dans la lignée de David, comme le roi attendu, etc.
Ouais. L'âne à lui tout seul ne suffirait pas. Ça se produisait pas pour tous les gens qui rentraient à Jérusalem à dos d'âne. Mais dans le contexte, avec tous les éléments qu'on a dans le récit, ça s'en va par là. D'ailleurs, les manteaux vont dans la même direction. Vous savez, les manteaux que les gens mettent par terre, là, ce qui est quand même pas très pratique non plus.
Tous prirent leurs manteaux et les étendirent devant lui sur les marches d'escalier.
Ça renvoie ça aussi à un autre passage de l'Ancien Testament, le deuxième livre des rois au chapitre 9. Le futur roi va dire aux gens qui l'entourent que le prophète Élie vient de lui annoncer qu'il sera roi d'Israël. Et la réaction des gens textuellement, aussitôt tous prirent leurs manteaux et les étendirent devant lui sur les marches d'escalier. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'acte de soumission. Et il sonne du corps et il crie « Jéhu est roi ». Il s'appelle Jéhu, pas Jésus, ne pas confondre. Donc, les manteaux dans Matthieu, ça parle de cela. C'est pas là pour l'anecdote. C'est porteur de cette image de la royauté, finalement.
C'est la symbolique de l'époque. C'est une façon d'exprimer qu'on le reconnaît comme roi.
Et on voit bien que l'Ancien Testament est une riche réserve d'images, de codes culturels, de symboles, etc. Alors, l'acclamation de la foule. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
Un extrait du psaume 118.
Oui, verset 25-26, quelque part, là. Ça désigne aussi, d'une certaine manière, Jésus. On se rappelle Jean le Baptiste, qui annonçait « Celui qui vient après moi ». Bon, historiquement, Jean-Baptiste, quand il parle ainsi, parle de la venue de Dieu. Mais du point de vue chrétien, dans les évangiles, quand Jean-Baptiste parle ainsi, cela désigne Jésus comme étant celui qui inaugure l'ère messianique, finalement. Alors, vous voyez, c'est comme si il s'agissait maintenant d'inviter Jérusalem, la fille de Sion, à reconnaître en Jésus son roi. Et c'est pas évident que Jésus corresponde à l'image d'un roi. D'autant plus que Matthieu appelle Jérusalem la ville du grand roi. Or, on a beau être monté sur un âne, Jésus ne correspond pas vraiment à l'ensemble des textes prophétiques sur le roi Messie. Et Matthieu va prendre soin de bien souligner des différences qui sont significatives pour la foi. La foi judéo-chrétienne, Matthieu écrit pour des juifs chrétiens, mais je pense que c'est significatif pour nous aussi. D'abord, il coupe un tout petit peu dans la citation du prophète Zacharie. Si je vous lis la phrase complète du chapitre 9, verset 9 de Zacharie, c'est « Bon, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, bon, et la suite. » Alors, vous voyez, il y avait trois adjectifs, juste, victorieux, humble. Dans le texte de Matthieu, il n'y a plus que humble. Ça met en valeur, il n'y a plus un seul qualificatif.
C'est ça, il prend appui, mais il l'actualise.
Oui, il fait son choix, hein. Il y a une certaine liberté, je dirais. Ouais. Et le mot qui est là, traduit par humble, c'est un mot qui n'est pas très fréquent, 4 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 fois dans Matthieu. Et les 2 autres emplois de Matthieu vont vous intéresser, je trouve ils sont révélateurs. C'est la béatitude des doux, heureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est le même mot grec que l'on a traduit dans notre récit par humble. Hein. Et mieux encore, chapitre 11, verset 9 dans Matthieu, ce texte qui n'est que dans Matthieu, quand Jésus dit « Venez à moi car je suis doux et humble de cœur », le mot grec traduit par humble est un autre mot. Notre mot à nous, c'est celui qui est traduit ici par doux. Donc, 2 fois sur 3, on le traduit par doux. Il me semble que dans l'entrée triomphale, on pourrait aussi le traduire ainsi, ce qui donnerait « Voici ton roi doux et monté sur un âne ». C'est intéressant comme qualificatif d'un roi, je dirais la douceur. Et donc, le contraire de la force et de la violence. C'est je trouve, parlant. Remarquez que la douceur, ça ne veut pas dire
la mollesse.
Ou de la mollesse, puisque Matthieu va
non,
placer...
Non, parce qu'il va tout de suite après. Vient
la scène de Jésus qui chasse les vendeurs du temple.
Que Jean place au début de son évangile.
Oui, au chapitre 2.
Tandis que Matthieu, lui, le place, là, cette scène où Jésus chasse les vendeurs du temple, tout de suite après être entré dans la ville. On se demande s'il y a eu le temps de descendre de l'âne.
Presque, oui. Chez Marc et Luc aussi, ça vient après l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais pas immédiatement après. Donc, vraiment, Matthieu l'a mis là. Et il y a d'autres éléments qui sont propres à Matthieu dans ce récit des vendeurs chassés du temple et qui rejoignent encore là l'image de David, mais à l'opposé, qui montre que Jésus, c'est pas vraiment le David guerrier et royal. Entre autres, Matthieu précise que dans le temple, des aveugles et des boiteux avancent vers Jésus et il les guérit. Alors que on voit dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, que les boiteux et les aveugles dégoûtent David. C'est un terme assez fort. Et que c'est à cause de cela qu'on dit que les aveugles et les boiteux n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. Alors, vous voyez comment la pratique de Jésus ici est présentée comme différente et même opposée à celle de David, au moins dans son attitude. Et je pense que Matthieu sait bien ce qu'il fait en ajoutant cette mention donc des boiteux et des aveugles dans le temple. Ce qui est probablement vrai, mais le fait que Matthieu tient à le dire.
Ouais, parce que c'est vraiment l'inverse.
C'est l'inverse.
Finalement.
Hein. Ouais. Donc, un fils de David un peu déviant, et les enfants dans le temple aussi, ça aussi c'est propre à Matthieu, vont crier, acclamer Jésus encore comme en disant « Hosanna au fils de David », comme dans notre texte de maintenant. De sorte que les scribes, évidemment, et les grands prêtres vont protester que le fait que Jésus accepte de se faire appeler fils de David, ça leur crée un problème, puisqu'il ne correspond de toute évidence pas au type de Messie que l'on attend. Et c'est là que Jésus va répondre par une citation du psaume 8 que beaucoup de gens aiment bien. « Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Dieu reçoit la louange des enfants. Alors, donc, on voit que Matthieu insiste beaucoup pour nuancer l'image du triomphe de Jésus. Hein. C'est un Messie, oui, mais un Messie roi d'une manière déconcertante pour les autorités religieuses, d'une manière difficilement reconnaissable, je dirais. Puis pour nous aussi, en tout cas, c'est pas sûr que ça correspond très bien à l'imaginaire des chrétiens sur la royauté, la force, le triomphe. Il y a là un souci chez Matthieu de présenter quelque chose de différent dans la façon dont Dieu conçoit son propre règne.
C'est comme si l'Ancien Testament était christianisé d'une certaine
façon. Oui, oui, et peut-être...
On prend appui sur l'Ancien, mais il y a une réalité radicalement nouvelle avec Jésus. Quoi.
Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Maintenant, après coup, nous, on est encore, je pense, spontanément dans l'Ancien Testament.
Oui.
Et il faut aussi christianiser nos images et notre propre mémoire, je dirais. Il y a un autre titre que Matthieu propose pour désigner Jésus dans ce récit, c'est sa finale, qui lui est propre. Hein. D'abord, toute la ville est bouleversée et demande « Qui est cet homme ?» On comprend avec tout ce qu'on vient de voir que la question « Qui est ?» c'est « Qui ?» est une question qui porte sur l'identité profonde et s'adresse aussi bien au lecteur. C'est pas « Quel est son nom ?» c'est plus que ça finalement. De qui parle-t-on quand on désigne Jésus comme roi? Et la réponse, c'est le prophète, Jésus de Nazareth. Et ça, ça peut nous surprendre parce que même si on sait bien que Jésus a été reconnu comme un prophète de son vivant, je pourrais dire, pour la foi chrétienne, on a toujours l'impression que prophète, c'est un titre on ne l'utilise pas volontiers, nous, parce qu'on a les titres plus glorieux, fils de Dieu, roi, messie, justement. Et pour Matthieu, le titre de prophète est important. Et d'abord parce que...
Ben, si vous vous souvenez, dans la guérison de l'aveugle de naissance, il commence par l'identifier comme un certain homme qui s'appelle Jésus. Puis dans une deuxième étape, il va dire « c'est un prophète ».
Vous avez raison, j'avais oublié, mais tout à fait.
Mais c'est pas omniprésent. Mais non. Ça revient quand même.
Oui, oui, ouais. Et c'est entre autres associé, quand on pense à l'expression « celui qui vient, béni soit celui qui vient », on attendait au temps de Jésus un prophète comme Moïse. Et on trouve ça, par exemple, dans l'évangile de Jean, hein, la foule qui va dire, après la multiplication des pains, c'est lui le prophète, c'est lui qui doit venir dans le monde. Et ça, ça fait référence à Moïse.
Prophète et Messie, c'était la même attente?
Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. Ah, bon. Moïse, vraiment une figure de prophète qui n'a rien à voir avec la royauté. Okay. Et je suis contente que vous souleviez le problème, parce qu'il me semble qu'il y a là un mode de leadership incarné par Moïse, qu'on néglige.
En fait, je me suis trompé. Ce que j'ai voulu dire, c'est prophète et messie.
Oui.
Je ne sais pas si c'est ça que vous avez compris.
Oui, mais c'est bien différent.
Alors, c'est différent.
Le messie, c'est le roi. Le prophète, c'est un homme de la parole.
Ah, tiens.
Et associé à Moïse, qui a donné la Torah. Moi, je trouve qu'il y a une forme de leadership, là, Moïse, qui est aussi perçu comme un sage, puisque la Torah est une source de sagesse, qui a guidé le peuple au désert, mais c'est pas du tout le même genre de leadership et d'autorité, surtout, que le roi. C'est pas le modèle de la royauté. Et à ce titre-là, il me semble qu'il y a une alternative intéressante là, qui est proposée en associant Jésus à la figure de Moïse. Matthieu va aussi utiliser le titre de prophète ici pour... déjà orienter le lecteur vers la Passion, ce qui est d'à propos, puisque nous aussi, c'est vers la semaine de la Passion, enfin, dans laquelle on entre. Et ça atténue alors l'image fascinante de la royauté. Par exemple, Matthieu va redire que la foule voit Jésus comme un prophète. Il va le redire un peu plus loin dans le même chapitre, tout de suite après la parabole des vignerons homicides, qui est une parabole clairement dédiée à annoncer ou à évoquer la mort de Jésus, finalement. Un petit peu plus loin aussi, un texte que vous connaissez, qu'on trouve au chapitre 23 de Matthieu, c'est Jésus lui-même qui va dire « Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». Vous voyez donc le prophète associé au fait d'être tué. Hein? Et Jésus continue, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Exactement ce que nous avons dans notre texte d'aujourd'hui. Donc, vous voyez comment c'est la fonction prophétique pour Matthieu qui donne sens au choix de Jésus de se laisser arrêter et de marcher vers la mort, ce qui est le contraire d'une attitude royale, je dirais. Et ça, c'est vrai, chez Matthieu, il insiste, mais je crois aussi qu'on peut dire cela du Jésus de l'histoire. C'est-à-dire que c'est dans la fonction prophétique qu'il a pu reconnaître lui-même un souffle qui nourrissait sa vision et des choses et le sens qu'il pouvait donner à ce qui l'attendait et à ses propres choix. Mmh. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ce récit. Et entre autres, on pourrait parler de la fête des tentes. Mais c'est partie remise, puisque c'est un récit qui revient à chaque année. suggère que nous arrêtions ici.
Bien. Alors, vous avez entendu Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Mon invité, à compter de la semaine prochaine, car ça va être pendant, appelons ça une série d'émissions, je ferai cette série avec Jean Bacon. C'est Claude Julien qui vous parle. À la recherche musicale, Marina Hochinskaya, à la technique, Alain Primo. Francine et moi, nous vous souhaitons de passer une très belle semaine sainte. Nous avons plusieurs émissions spéciales à Radio Ville-Marie. Restez avec nous. Et dès maintenant, nous nous permettons de vous souhaiter des joyeuses Pâques.